BJKI-DCPSI, qu'on appelle BCE pour faciliter les choses, et troisième force, la gauche, en quoi ces trois forces-là se distinguent-elles sur les questions économiques? Lorsqu'on parle des deux principales, d'Ennahda et du parti dirigé par Caïd-Essebsi, BCE, la réponse est simple, ils ne se distinguent pas vraiment. Et cela va peut-être vous rappeler quelque chose. Là, les deux principaux partis ne proposent que de continuer les politiques libérales de Ben Ali, politiques libérales...
Qui sont à l'origine de la révolution.
Qui sont à l'origine de la révolution et qui avaient été, vous vous en souvenez, saluées par le FMI et par Dominique Strauss-Kahn, on a encore le son, etc., de Dominique Strauss-Kahn, expliquant devant Ben Ali, je le cite...
L'économie tunisienne va bien, malgré la crise. La politique économique qui est conduite est saine. Et je pense que c'est un bon exemple à suivre pour beaucoup de pays qui sont des pays émergents, comme la Tunisie.
C'est ce qu'il a dit en novembre 2008. Eh bien, les deux principaux partis veulent poursuivre ces politiques. Pas tout à fait quand même, parce qu'ils veulent les débarrasser de la part de népotisme et de corruption qu'elles contenaient du temps du dictateur, dont 550 propriétés immobilières, 48 bateaux et yachts, 367 comptes bancaires et près de 400 entreprises ont été confisquées. Et je crois que là, il faut s'arrêter un instant là-dessus, parce que la semaine dernière, il y a eu un rapport de la Banque mondiale qui, elle aussi, avait salué en son temps le modèle économique de Ben Ali et qui a estimé que du temps où il était à la tête du pays, le clan possédait 3% de la richesse du pays et se répartissait 21% des profits des entreprises privées. Un résultat quand même assez magnifique.
Ce qui satisfaisait les centaines d'entreprises françaises installées en Tunisie.
Oui, mais qui satisfaisait encore plus le clan, qui faisait la loi évidemment à son avantage. Le nom du rapport de la Banque mondiale sur la période Ben Ali, je vous cite, c'est « Tout reste dans la famille ». La capture de l'État en Tunisie. Pourtant, ni les islamistes, ni BJKI-DCPSI, l'autre grande force politique, ne proposent de rompre avec ce modèle. Et à vrai dire, lorsqu'on les interroge sur des dossiers aussi importants que celui de la dette extérieure, ben, ils sont d'accord. Lorsqu'on les interroge sur les subventions qui sont accordées à un certain nombre de secteurs, dont l'énergie, ils sont d'accord pour ne rien remettre en cause. Ils ne réclament ni un abandon, ni une renégociation de la dette tunisienne, ni la remise en cause de certaines de ces subventions qui vont à des entreprises qui n'en ont absolument pas besoin. À vrai dire, Ennahda, comme les islamistes, les frères musulmans, n'ont pas vraiment de projet économique. On a vu là-bas un responsable qui nous disait « Oui, nous, on n'a pas réfléchi aux questions économiques, mais comme on a été au gouvernement, on a été obligé de découvrir en quelque sorte que ça existait ». Mais quand vous lisiez le programme économique d'Ennahda, vous aviez des phrases du genre « il faut créer de nouveaux marchés pour nos biens et services, il faut simplifier les procédures, il faut diversifier les investissements vers des projets plus utiles », enfin de très grandes généralités, qui étaient uniquement assaisonnées de formules plus pieuses, plus religieuses, du type « faire revivre les valeurs vertueuses issues de l'héritage culturel de la société tunisienne, de son identité arabe et islamique, valeurs qui honorent l'effort et le travail de qualité ». Et de son côté, le patronat tunisien, qui est à l'heure actuelle très étroitement associé au gouvernement, utilise tout le jargon des « business schools ». Quand vous regardez ce qu'il recommande, il veut, je cite, « faire le rebranding de la marque Tunisie ». Promouvoir la Tunisie digitale comme destination des investissements high-tech, affirmer l'offshoring comme une priorité nationale créatrice de valeur ajoutée et d'emplois. Nous, quand on parle d'offshoring, on ne pense pas à une création d'emplois, on pense davantage à des paradis fiscaux. Le patronat tunisien estime également que l'existence, je cite, d'un pool de compétences disponibles et d'une proximité géographique et culturelle avec l'Europe constitue des avantages compétitifs déterminants. En d'autres termes, c'est le modèle ancien qui consiste à insérer la Tunisie dans la division internationale du travail en jouant sur des coûts salariaux très faibles et sur la proximité avec l'Europe. Eh bien, toutes ces politiques dont on sait qu'elles n'ont pas donné de bons résultats, elles ont même donné de très mauvais résultats puisque le pays est très largement divisé entre les régions marginalisées de l'intérieur depuis très longtemps et qui le sont restées marginalisées, et une vitrine maritime vers laquelle se dirigent la plupart des investissements. Et au total, on peut dire que la révolution tunisienne, à l'heure actuelle, n'a pas été une révolution. Elle a certes débarrasser le pays d'un dictateur, et ça n'est pas rien. Et il y a effectivement une très réelle fierté nationale des Tunisiens